Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition géopolitique dont nous vous recommandons l'abonnement dans votre application favorite de podcast. Regard sur la Birmanie, 8 mois après le coup d'état militaire du 1er février dernier qui a renversé Aung San Suu Kyi. Depuis, en résidence surveillée à Naypyidaw, la capitale, un procès a été ouvert contre la chef de file de l'opposition. Un procès pour corruption notamment qui n'a d'autre but que de l'écarter sans doute définitivement de la vie politique birmane. Elle risque 15 années de prison pour avoir prétendument perçu 600 000 dollars et plusieurs kilos d'or en pot de vin. La justice n'étant pas indépendante en Birmanie, la partie semble perdue d'avance dans un contexte de très forte tension ponctuée d'affrontements continus entre les forces militaires et les militants pro-démocratie qui ont fait depuis 8 mois plus de 1100 victimes recensées tombés sous les balles de la police et plus de 5000 jetés en prison, des vies fauchées, des futurs anéantis. Le pays est aujourd'hui exsangue, crise économique et tragédie sanitaire, plus de 15 000 morts depuis le mois de juin. Les militaires ont politisé la pandémie et créé une situation dans laquelle la Covid-19 se propage de manière totalement incontrôlée jusqu'à l'extérieur des frontières. Selon une récente note de la Banque mondiale, le PIB birman devrait se contracter de 18% sur l'année 2021, contre une croissance de 3,2% l'année dernière. Ajoutée aux effets de la pandémie, c'est une chute libre pour le pays. Des millions d'emplois perdus, des millions de familles qui n'ont plus les moyens de se loger, de se nourrir. Le prix des produits de première nécessité a grimpé en flèche. Quel avenir pour la Birmanie alors que la situation est décrite comme désespérée et que l'effondrement du pays menace désormais la Chine, l'Inde, le Bangladesh et l'Asie du Sud-Est, ses voisins. État des lieux et implications régionales avec nos invités par téléphone. Sophie Boisseau-Durocher, chercheure associée au Centre Asie de l'IFRI. Bonjour.
Bonjour.
Également par téléphone, Alex Hongkant, analyste birman indépendant basé à Paris. Bonjour.
Bonjour madame.
Et en studio, Françoise Nicolas, directeur du Centre Asie de l'IFRI et enseignante à Sciences Po. Bonjour.
Bonjour.
Et David Camerou, chercheur et professeur associé aux séries Sciences Po. Bonjour.
Bonjour.
En reprenant le pouvoir le 1er février dernier, l'armée a clos une parenthèse démocratique de 10 ans. À la suite du putsch, la loi martiale et l'état d'urgence ont été proclamés pour un an. Le Parlement a été dissous et les pleins pouvoirs ont été confiés au commandant en chef de l'armée, Min Aung Hlaing. Le coup d'état est intervenu en pleine crise de la Covid et est en train de décimer un pays qui était déjà parmi les plus pauvres de la région et en proie à des conflits récurrents. Ce coup d'État en pleine pandémie, Sophie Boisseau-Durocher, était-ce un hasard? Et finalement, au-delà, quel était le sens de ce coup le 1er février dernier?
Écoutez, il me semble que la pandémie a joué un rôle, mais un rôle mineur par rapport à un autre facteur qui est bien plus important, qui était que le Parlement, élu en novembre 2020, devait se réunir pour la première fois. Et il s'agissait donc d'une réunion importante, puisque ces élections avaient véritablement conforté l'ALND dans son pouvoir et avaient au contraire avalisé la défaite du parti qui soutenait les militaires dans la nouvelle configuration politique. Donc je crois qu'il s'agissait d'abord pour les militaires de refuser, si vous voulez, le résultat des élections et d'empêcher ce Parlement de se réunir, ce qui aurait été évidemment une étape importante pour l'avenir politique de la Birmanie.
David Camerou.
Oui, en fait, Min Aung Hlaing a déjà annoncé au mois d'août qu'il ferait n'importe quoi pour empêcher que ce Parlement soit réuni. Le timing est compréhensible. Ce qui n'est pas compréhensible, c'est les raisons. Parce que l'armée avait déjà beaucoup de pouvoir. Ils avaient 25% des sièges au Parlement. Il maintenait les ministères clés, la défense, l'intérieur et les zones périphériques. Ils avaient vu le budget augmenter depuis 5 ans. Et donc, il faut, je crois, aussi chercher sur les motivations personnelles de Min Aung Hlaing, le chef des forces armées, qui devrait partir à la retraite au mois de septembre de cette année. Et donc, c'était la dernière chance pour devenir président.
Un coup d'éclat, d'une certaine manière.
Un coup d'éclat, oui. Très une rivalité d'ego avec Aung San Suu Kyi.
Alors, on va parler d'Aung San Suu Kyi. Peut-être dans un premier temps, Alexandre Comte, je me tourne vers vous. Quel est, 8 mois après ce coup d'État, quelle est la situation aujourd'hui en Birmanie, à la fois politique, économique, on le verra avec Françoise Nicolas, politique et sociale.
Merci madame et heureux d'être ici aussi, même si le sujet c'est un sujet très difficile pour moi et notamment pour mes collègues et tous les citoyens en Birmanie. La situation aujourd'hui, c'est qu'il y a un sens de désespoir et les gens se sont dispersés avec les manques d'action par la communauté internationale et surtout face à tous les terrois commis chaque jour quotidiennement par la militaire, par la junte. Et donc, l'impact de la pandémie et surtout le variant Delta, dans les mois précédents, il y a 3-4 mois, ça a totalement détruit la santé des gens. Et même moi, personnellement, j'ai perdu quelques amis et une membre de ma famille personnellement à cause de cette pandémie. La leçon, c'est que on a cette sentiment qu'on a, on voit bien des actions maintenant. C'est dans les mots le plus petit, je ne sais plus ce que je peux dire.
C'est-à-dire précisément ?
C'est-à-dire qu'on veut le changement maintenant, en fait. Toutes les actions et toutes les solutions, entre guillemets, proposées par la communauté internationale, ça veut dire tous les discours de sanctions et tout ça proposés par les communautés internationales, on sait très bien que les gens qui sont en train de les proposer sont déjà à penser que ces solutions vont prendre au moins 5 ou 10 ans pour voir les résultats. Malheureusement, on a déjà passé plus de 70 ans sous la menace de la militaire contre notre processus démocratique. Et surtout, on a connu aussi 10 ans, entre guillemets, de, on dit, liberté, même si c'était pas totalement libre. On a quand même, on a eu un petit peu de liberté et on ne veut plus rester dans cette situation sous la dictature pour même un jour de plus. On a déjà passé 8 mois depuis le coup d'État et donc, toutes les solutions proposées par la communauté internationale, on est contre. On dit pas que c'est des mauvaises solutions. On dit simplement que c'est des solutions pas réalistiques avec, et pas du tout dans la même ligne que nos sentiments. On veut les solutions maintenant. On veut les actions maintenant et on veut même pas passer même pas un an sous cette dictature. Et donc on veut les changements maintenant. Et donc voilà.
Vous écoutez RFI, Géopolitique.
Alors, on reviendra sur la question de la communauté internationale. Ce qui m'intéressait dans un premier temps, c'était de comprendre comment s'est organisée la résistance à ce qui se passe depuis 8 mois. Ça a commencé par une grève nationale et ensuite des actions perpétuées ici et là. Françoise Nicolas, sur le plan économique, donc grève nationale, évidemment un impact très fort, et je le disais en introduction, une récente note de la Banque mondiale donne pour le PIB birman une contraction de 18% sur l'année 2021, mais concrètement, dans les faits, la chute est encore plus impressionnante.
Mais la Birmanie a souffert d'un double choc. Elle avait déjà été frappée par le Covid, même si bon, sur l'année 2020, elle avait réussi à maintenir une croissance positive, très faible mais positive. Et le deuxième choc, ça a été le coup d'État. Donc après, avec le Covid, déjà, il y avait eu une chute de tourisme, notamment, ce qui est quand même une grosse entrée de devises en Birmanie. Ça représente de l'ordre de 7% du PIB, ce qui est quand même assez conséquent. On avait aussi un effondrement des remises des travailleurs birmans à l'étranger, notamment en Thaïlande. Ça, c'était une deuxième source de ressources qui était tarie. Et puis, une baisse des exportations due au ralentissement de l'économie mondiale. Donc ça, c'était déjà le premier effet, un ralentissement économique alors que c'était une économie qui fonctionnait quand même très bien depuis une dizaine d'années. Et puis deuxième choc, à l'issue du coup d'État, avec là effondrement total du commerce, avec une économie complètement à l'arrêt, en raison des manifestations, des grèves, etc. Un tarissement aussi des flux d'investissements directs étrangers, en raison de l'instabilité qui est née dans le pays. Et puis, un arrêt aussi des transferts unilatéraux, c'est-à-dire toute l'assistance financière qui vient des donneurs multilatéraux et bilatéraux. Donc, pour toutes ces raisons, c'est une économie qui est complètement à l'arrêt. Alors ça se traduit de manière très concrète dans la population, ce que ça a été signalé tout à l'heure. Ce qui se pose comme problème, c'est qu'il y a un nombre incroyable de gens qui ont été propulsés dans la pauvreté à nouveau. Et on dit que, selon certaines estimations, c'est à peu près 50% de la population qui serait au-dessous du seuil de pauvreté, c'est-à-dire qui vivrait avec moins de 1 dollar par jour. Donc c'est quand même assez spectaculaire. Et on a de l'ordre de 6 millions de gens qui seraient en urgence sanitaire. Donc là, la situation est vraiment catastrophique. Et ce qui est, vous disiez 18% de recul du PIB, selon la Banque mondiale, c'est même 18,4% pour être précis. Et une étude toute récente de l'AMRO, qui est l'espèce de FMI locale au niveau de l'ASEAN plus 3, estime que le recul sera de 18,7%. Donc on frise les 19% de recul. Donc c'est absolument colossal. Je pense qu'on a un peu de mal à imaginer ce que ça représente, mais de manière concrète, ça représente des gens qui sont propulsés dans la pauvreté. Et en réalité, ça représente un grand bond en arrière, dirais. Et les 10 années de croissance et de liberté sont réduites à néant.
Après le constat économique qu'a fait Françoise Nicolas, sur le plan de la résistance, on l'abordait un petit peu rapidement précédemment, on a vu début septembre des représentants de l'opposition birmane réunis dans un gouvernement d'unité nationale lancer un appel à la résistance armée, appel qui a donné lieu à des flambées de violence dans certaines zones du pays. Alors, vous nous en avez dit quelques mots, Alex Ankand, sur ce que veut la résistance aujourd'hui. Est-ce que c'est un retour à la situation précédente, le coup d'État du 1er février, la défaite de la junte, un retrait des militaires du monde politique? Où en êtes-vous?
Merci. Et il faut d'abord commencer en clarifiant que le gouvernement national uni, ou le National Unity Government en anglais, le NUG, ce n'est pas du tout l'opposition ni la résistance, en fait. On est, en fait, le gouvernement légitime et on est piraté, peut-être, par la militaire, par la junte, pour le contrôle. On a perdu le contrôle parce qu'ils ont lancé un coup d'État. Donc, on a gagné les élections en 2020 et donc, on est, en fait, le gouvernement légitime. Après ça, ce que les gens veulent, c'est que après 7 mois et 7 jours sous la dictature, sous le retour de la contrôle de junte, on a décidé que c'est suffisamment le temps et que les gens ont besoin d'être protégés. C'est pour ça que ce lancement de la guerre défensive a été lancé. Et derrière ça, c'est une seule logique et peut-être en 4 parties. Le premier, c'est que en premier temps, on a en fait demandé le UN Security Council, le Conseil de sécurité de Nations Unies, de intervenir et de protéger les citoyennes. En premier temps, c'était pas possible pour des raisons variées. Et en deuxième temps, on a décidé si vous ne pouvez pas nous protéger, au moins reconnaître le NUG, c'était la deuxième demande lancée par les leaders et en plus les citoyennes. Ça aussi prend pas mal de temps. Et maintenant, on est en troisième étape, c'est que, si cette reconnaissance va prendre pas mal de temps, on va prendre l'initiative nous-mêmes et de nous protéger. C'est pour ça que cette guerre défensive était lancée. Donc, d'après toute cette logique, on arrive au quatrième point, c'est que je pense que les Birmans sont en train de dire au monde qu'il y a une sorte d'urgence pour protéger les gens et pour réinstaller la paix et pour faire sortir l'armée. Et cette sens d'urgence, ce n'est pas bien compris ou peut-être pas bien entendu par la communauté internationale, parce que, comme je vous avais dit tout à l'heure, toutes les solutions et toutes les choses proposées, c'est des choses qui vont prendre pas mal de temps. Et donc maintenant, ce que les citoyens ont pensé et ce que la résistance a pensé, c'est que on va essayer notre mieux pour changer cette situation dans le temps le plus vite.
David Camerou.
Nous sommes déjà dans l'après Aung San Suu Kyi. En fait, les militaires sont tirés une balle dans le pied en gardant Aung San Suu Kyi sur résidence surveillée. On ne sait pas quel est son avis. Donc, nous sommes maintenant dans un mouvement démocratique d'après Aung San Suu Kyi. C'est les générations plus jeunes qui ont pris un peu le rôle important dans cette résistance. La non-violence qui prenait Aung San Suu Kyi, c'est quelque chose du passé. Nous sommes maintenant dans une véritable guerre civile où les cibles sont pas simplement les militaires qui peuvent être protégés par l'armée, mais sont les politiciens, en fait, les administrateurs qui sont proches de l'armée, que l'armée a beaucoup de mal à protéger. Et donc, nous assistons à des actions de guérilla, nous assistons à des exactions avec les assassinats des administrateurs locaux. Un petit exemple, ceux qui relèvent les comptes d'électricité, comme une grève, les gens refusent de payer les frais d'électricité, les contrôleurs des compteurs d'électricité sont les cibles, par exemple, d'attaques des... Et ça, l'armée a beaucoup de mal à protéger tous ces gens-là.
Alors, Sophie Boisseau-Durocher, comment réagissez-vous à ce qui a été dit et qu'on essaie de comprendre aussi quel pourcentage de la population suit le mouvement de résistance aujourd'hui en Birmanie?
Écoutez, il est important et je dirais presque qu'il est de plus en plus important parce que effectivement la résistance s'organise. Je crois que ce qu'il faut comprendre de façon urgente dans les pays européens, c'est que aujourd'hui la Birmanie apparaît dans l'impasse. Elle est dans l'impasse et que la perspective de s'en sortir pacifiquement s'éloigne de façon irréversible. Objectivement, le coup d'État est un coup d'État raté. Pas de paix. Pas de stabilité, pas de contrôle territorial effectif, pas de reconnaissance internationale et un pays à l'arrêt sur le plan économique. Donc on voit bien, si vous voulez, que l'armée aujourd'hui est effectivement contestée comme elle ne l'a jamais été. Là-dessus, on nous l'a expliqué, Aung nous l'a expliqué, pour différentes raisons propres à la communauté internationale, le soutien direct au NUG ou à la résistance est encore discret. Et donc la population a effectivement décidé, les jeunes générations, comme vient de le souligner David Camerou, a effectivement décidé de prendre en main son destin. Et ce faisant, multiplie, si vous voulez, les actions pour contester cette domination de l'armée. Alors, les actes de sabotage, les actes de la guerre de résistance est lancée. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que comme cela fonctionne plutôt bien, mais discrètement, c'est-à-dire des assassinats ciblés, etc., la population civile est derrière aussi ce mouvement. Et ça, il faut bien que nous, on en ait conscience, si vous voulez, pour savoir comment on peut réussir à faire émerger une nouvelle solution pour le pays. Maintenant, les jeux se compliquent énormément, on le verra, du fait du soutien de la Chine, de la Russie et d'autres pays qui envoient des armes et donc qui rendent une négociation fragile.
Alors le jeu se complique énormément. C'est avec cette phrase de Sophie Boisseau-Durocher qu'on va terminer cette première partie d'émission sur la Birmanie. On vous retrouve, David Camerou, Sophie Boisseau-Durocher, Alex Ancante et Françoise Nicolas, après le journal. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique regard sur la Birmanie. Nous retrouvons nos invités par téléphone. Sophie Boisseau-Durocher, chercheur associé au Centre Asie de l'IFRI. Alex Ankand, qui est analyste birman indépendant basé à Paris, et en studio Françoise Nicolas, directeur du Centre Asie de l'IFRI et enseignante à Sciences Po. Et David Camerou, chercheur et professeur associé au CERI Sciences Po. Il est intéressant peut-être à ce stade de l'émission sur la Birmanie de voir un petit peu comment la communauté internationale a réagi à la situation. On a vu finalement dans un premier temps les puissances régionales asiatiques plutôt regarder de l'autre côté. L'ASEAN a souligné les problèmes mais ne les a pas vraiment adressés. L'Inde est restée silencieuse. La Chine a refusé de condamner la junte et la Russie a armé le gouvernement pendant que l'Union européenne et les États-Unis décidaient de sanctions. Tout se passe aujourd'hui dans l'actualité internationale sous le spectre de la rivalité États-Unis-Chine. Est-ce que les États-Unis ne sont pas en train de rater une opportunité de montrer les dents face à la Chine en Birmanie? Je ne sais pas qui souhaite répondre pour commencer à cette question. David Camerou.
Je crois qu'il y a quand même un ratage. En fait, si on entend les discours des dernières semaines sur l'AUKUS, sur le Quad, les discours de Kamala Harris en Asie du Sud-Est et du ministre de la Défense, l'ancien général Austin, on parle beaucoup de démocratie. Quand on a du Pacifique, on veut promouvoir la démocratie et les droits de l'homme. Là, on a un cas concret. Il n'y a pas vraiment d'ambiguïté. On a un gouvernement élu qui a été renversé. Mmh. Et on fait rien. Pourquoi? Parce qu'on a, en fait, sous-traité le sujet de la Birmanie à l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, à l'ASEAN, en disant, vous allez résoudre ça. Les Européens, on aime bien les solutions régionales. Donc, on sous-traite ça à l'ASEAN. Ils ont nommé un envoyé spécial. Mais rien n'a avancé, et même maintenant au sein de l'ASEAN, certains pays comme la Malaisie et l'Indonésie se montrent impatients que, en fait, l'effort de l'ASEAN n'a rien produit. Pour l'instant, l'envoyé spécial n'a pas eu le corps de la junte pour voir Aung San Suu Kyi et d'autres prisonniers politiques. Il y a quand même le commencement d'un dialogue. En fait, l'idée même de dialogue est quand même complètement maintenant farfelue. On est dans une situation telle que il faut peut-être choisir un camp, hein, soit on est avec les militaires, soit avec le mouvement démocratique. Mais dans ce contexte, les pays jouent un peu un jeu double. La Chine ne souhaite pas que le parti d'Aung San Suu Kyi, par exemple, soit du Sud. Et la Chine, qui a des vrais intérêts stratégiques et légitimes, hein, de sécurité énergétique en Birmanie, peut-être Françoise aurait des choses à dire là-dessus, joue un peu un jeu double. La Chine arme certains groupes ethniques, et ça c'est un facteur clé dans la situation birmane, c'est le rôle des ce qu'on appelle des ethnic arm organizations, les organisations armées des groupes ethniques. C'est pas les petites armées, c'est parfois l'armée Wa, c'est 30 000 hommes, est bien entraîné, et c'est eux qui forment justement le PDF, the People's Defense Forces, les jeunes maintenant qui viennent justement dans ces zones périphériques pour se former sur les faits militaires et qui sont formés et armés par les groupes ethniques.
Alors, Françoise Nicolas, cette absence de pression, finalement, où chacun ne veut pas prendre parti, en tout cas, je parle pour l'Occident, les États-Unis, l'Union européenne, tout cela, c'est parce qu'aussi des intérêts économiques importants sont en jeu avec la Birmanie?
Oui, il y a des intérêts économiques, effectivement. Mais surtout, si on revient au positionnement de l'Europe, et plus précisément de la France, par exemple, sur la question birmane, moi, il me semble que la position est très légaliste, en quelque sorte. Donc, la position que l'on prend, c'est, nous, on ne peut pas reconnaître un gouvernement, on ne reconnaît que des États. Donc, le NUG, on ne peut pas le reconnaître parce que c'est juste un gouvernement. Il me semble que là, on est quand même dans une réponse qui est assez décalée par rapport à la réalité. La réalité, c'est celle qui était décrite par Alex Ankand tout à l'heure. C'est la réalité d'un pays qui est exsangue, d'une population qui est désespérée. Et je pense que ces réponses très légalistes sont très, très décalées. Et je pense que là, il faudrait peut-être être un peu plus audacieux, un peu plus courageux et officiellement décider de soutenir le NUG. Mais bon, c'est un appel qui a été lancé récemment par le Sénat. Je ne suis pas sûr que, malgré tout, le gouvernement français suive dans cette voie pour les raisons que j'évoquais précédemment, où on ne soutient pas les gouvernements, on soutient vraiment un État. Mais je pense que là, on est décalé hein, par rapport à la réalité des faits et du terrain, surtout.
Alors, s'il fallait décrire le NUG, donc un gouvernement, le gouvernement d'unité nationale, en anglais à l'inverse, gouvernement parallèle, qui est un groupe finalement de députés en exil qui donc revendique la légitimité de la représentation du peuple birman. Question de la reconnaissance est posée. Dans un premier temps, Sophie Boisseau-Durocher, il était reproché à ce NUG de ne pas laisser entrevoir de compromis avec les minorités. Cela a évolué.
Oui, alors les choses ont changé, et même d'ailleurs dès l'origine quand même, hein, c'est-à-dire quand le NUG a été formé en avril 2021, un effort réel d'inclusivité avait été fait quand même. Hein, et c'est la première fois précisément qu'un gouvernement essaye de faire avancer de façon concrète la réflexion sur le fédéralisme. Il y a eu de différentes tentatives, mais là concrètement, ils ont intégré dans la composition du gouvernement des représentants des minorités ethniques. Je rappelle quand même qu'il y a 135 minorités officielles. Certaines sont plus importantes que d'autres, et les minorités ethniques avaient voix au chapitre. Et là, c'est véritablement quelque chose de nouveau. De même, il y a eu un effort, si vous voulez, d'organisation programmatique, c'est-à-dire que il faut bien comprendre que la junte est en permanence dans un comportement défensif, mais n'a pas de programme, n'a pas de projet au-delà de la défense de ses propres intérêts. Le NUG a essayé d'avancer un programme pour l'avenir du pays afin d'aider la population à se projeter dans un avenir meilleur. Donc, si vous voulez, son ambition de créer une démocratie, enfin vraiment de conforter l'effort pour créer une démocratie fédérale, a eu évidemment un énorme écho auprès non seulement de la population bamar majoritaire, mais également des différentes ethnies. Et je dois dire pour ça que les radios clandestines qui ont été créées qui fonctionnent permettent justement d'atteindre, si vous voulez, ces minorités qui sont éloignées des grandes villes que sont Yangon, Mandalay, ou voire Naypyidaw. Donc il y a, si vous voulez, là véritablement un effort de réflexion. La difficulté, comme toujours au Myanmar, et on oublie à quel point ce pays d'une telle complexité et déconcertant, c'est que l'armée joue la division et essaye d'attirer dans ses logiques, et notamment dans des logiques financières, certaines minorités qui, sur le coup, peuvent être ou du côté de l'armée ou divisées entre partisans du NUG et partisans de l'armée, ce qui est évidemment une configuration parfaitement tendue et improductive pour avancer vers une solution durable.
Alors, Alex Ankant, vous partagez ce que vient de dire Sophie Boisseau-Durocher ?
Oui, tout à fait. Et en plus, je veux juste ajouter que les Birmans sont... On a vécu, en fait, ces 10 ans récemment où on a connu, entre guillemets, le compromis. Ces derniers 10 ans n'étaient pas la liberté absolue. Au contraire, en fait, c'était le compromis que tout le monde parlait, la négociation que la communauté internationale souvent parle, en fait. Dans les 10 ans avant, on a essayé de changer la constitution avec les moyens pacifiques et démocratiques. Ça veut dire qu'on a suivi quand même la constitution qui n'était pas écrite par nous, ni qui n'était consultée par les citoyens, qui était seulement contrôlée et écrite par la militaire. Et donc, on a, en fait, entre guillemets, joué leur jeu. On a essayer avec la militaire aussi de changer doucement notre pays. Ça n'a pas marché pour les militaires, en fait, parce que pour eux, c'était innégociable qu'il y a un changement, en fait. C'est eux qui veulent retenir absolument leur contrôle sur le pays, c'est eux qui veulent rester dans le pouvoir pour, entre guillemets, éternité. Et c'est clair que le 1er février, ils ont été obligés de lancer le coup d'État parce qu'ils se sentaient que dès que le Parlement commence, que leur avenir dans le futur de la Birmanie est déjà en train d'être écrasé. Et donc, c'est pour ça que les militaires ne veulent pas absolument que il y a un changement, en fait. Il veut rester en pouvoir pour le temps indéfini. C'est pour ça que c'est impossible de négocier avec eux. Donc, tout ce qu'on parle, on a compris, comme les citoyens piémontais, que la militaire n'est pas une groupe où on peut discuter et parler humainement, en fait. On les appelle en piémontais les war dogs, ou les chiens
de guerre.
Parce que, comme des chiens, ils connaissent que les ordres de soit attaquer ou soit rester, et comme les chiens aussi, ils suivent tout leur maître, le commandant en chef, et que, comme les chiens de guerre, ils savent que faire la guerre. Voilà.
Alors l'armée qui en Birmanie a eu un rôle d'ascenseur social aussi très important parmi la population. Alors j'en reviens tout de même à la question, parce qu'on va parler de la Chine aussi. Je l'ai dit, la Chine a refusé de condamner la junte. Il a même été dit à un moment que peut-être la Chine était derrière ce coup d'état des militaires le 1er février dernier. J'en reviens à ma question, et on va parler de la Chine aussi, mais est-ce que les États-Unis et l'Occident, la France, l'Europe devraient prendre plus au sérieux la question birmane aujourd'hui? Et quels sont les projets de la Chine vis-à-vis de la Birmanie? On peut rappeler que dans la question de les routes de la soie, la Birmanie est un pays très important pour la Chine.
Sur le rôle de la Chine et l'importance de la Birmanie aux yeux de la Chine, cette importance est absolument incontestable, parce que c'est un lieu, un pays qui est absolument stratégique pour la Chine. Il y a déjà un oléoduc, un gazoduc qui traverse la Birmanie et qui dessert le sud de la Chine. Donc ça m'amène à penser que malgré tout, la Chine n'a pas du tout intérêt à ce que la Birmanie reste dans une situation de chaos. Donc je ne vois pas du tout pourquoi elle pousserait justement au maintien de cette situation chaotique dans le pays. Là, la Chine a vraiment d'énormes intérêts économiques dans la zone. En plus, elle a aussi prévu le développement d'un immense port en eau profonde à Chukpyu, avec une zone économique spéciale qui serait attenante à ce port. Donc il y a vraiment des intérêts économiques colossaux, et c'est pour ça que moi je ne vois pas du tout pourquoi la Chine, d'abord, aurait été derrière le coup. Ça me paraît très très bizarre, et là je ne comprendrais pas la rationalité, et je ne vois pas du tout pourquoi la Chine pousserait à ce que la situation de chaos perdure en Birmanie.
David Cameron.
Non, la Chine a plus besoin de la Birmanie que le contraire. Les jeunes militaires, les militaires en général, sont anti-chinois. Et les militaires des dernières années ont diversifié leur fourniture d'armes vers la Russie. C'est la Russie qui est le plus grand soutien de la junte, c'est pas la Chine. Mais Xi Jinping, le président chinois, se trouve dans une espèce de paradoxe idéologique, parce que maintenant, en Indo-Pacifique, on parle beaucoup de conflits idéologiques. Parce que, objectivement, l'intérêt de la Chine, c'est de rétablir un système démocratique fédéral en Birmanie. Un pays stable, démocratique, c'est dans son propre intérêt. Ça veut dire que le modèle autoritaire n'est plus de mise. Et donc, le Birmanie devrait être un sujet à la fois de contestation idéologique avec les États-Unis, avec l'Occident en général, sur les questions de la démocratie. Mais ça devrait aussi être une question de coopération. Parce que les intérêts convergent. Chacun a intérêt de rétablir une Birmanie pacifique, prospère, ou qui devient prospère, et qui ne soit pas instable pour ses voisins. Et donc, le fait que nous avons sous-traité à la fois les Chinois et l'Occident, les États-Unis et l'Union européenne, le règlement de ce conflit à l'ASEAN n'est plus possible, en fait. Maintenant, après 8 mois, on voit que ça n'a pas porté de résultat. Il y a une réunion de l'ASEAN prévue le 23, le 25 octobre. C'est à ce moment-là que il faut frapper sur la table en disant, les amis, maintenant, il faut passer à autre chose et trouver vraiment une solution définitive. Il n'est plus question, comme Alex Unkont a expliqué, de revenir à la situation de la concession de 2008.
Sophie Boisseau-Durocher, vous partagez?
Oui, alors je suis évidemment pas tout à fait d'accord, c'est-à-dire que je ne crois pas quand même que la Chine ait intérêt à une solution démocratique durable, tout simplement parce qu'il y a aussi derrière cette guerre civile, il y a évidemment une guerre systémique entre différents systèmes politiques, notamment Chine, États-Unis. Et d'ailleurs, récemment, non seulement l'ambassadeur de Chine à Nepido, mais également le ministre des affaires étrangères ont rencontré les représentants de la junte et ont évoqué de multiples projets bilatéraux qui effectivement, notamment le projet de chemin de fer qui partirait non seulement de Lincan dans le Yunnan mais également de Chengdu dans le Sichuan pour passer à travers la Birmanie et avoir accès à l'océan Indien. Évidemment que ces projets permettraient de conforter, si vous voulez, les positions financières de la junte. Donc là, je crois qu'il n'y a aucune volonté de la Chine de faire pression sur la junte. Du côté américain, il faut voir aussi que l'Occident, en général, les États-Unis et l'Union européenne, ont été discrédités d'une certaine façon après les événements dramatiques de 2017-2018 envers les Rohingyas. Et cette critique peut être très impulsive, si vous voulez, qui est apparue dans les médias occidentaux pour condamner la méthode d'Aung San Suu Kyi, qui était la seule peut-être qui était possible, c'est-à-dire qu'elle avait quand même essayé de défendre le sort des Rohingyas, qui est très complexe à nouveau au Myanmar, et de faire avancer ce dossier très sensible. Le risque pour les États-Unis, c'est que dans cette configuration éminemment complexe, il y ait un enlisement, je dirais presque à la façon afghane. Et ça, c'est évidemment un risque que les États-Unis ne veulent pas prendre. Cependant, on sait quand même qu'aujourd'hui, Washington soutient de différentes façons la résistance à la junte.
Ça, c'est un élément important, parce qu'il ne peut pas y avoir, et c'est peut-être à vous que je donnerai la conclusion, Alex Ankant, finalement, ce pivot américain vers l'Asie, un pivot à la carte, c'est-à-dire qu'on y va quand on a envie et quand c'est possible, et puis on n'y va pas quand les choses sont trop compliquées. Alex Ankant.
Oui, tout à fait. Et je veux juste ajouter aussi que on parle souvent comme si l'États-Unis est le protecteur des droits de l'homme et le protecteur de la démocratie partout dans le monde. Ce n'est que verbal, en fait. En réalité, on voit que les États-Unis est souvent incapable de faire leur dans cette position à cause de leur division démocratique dans le pays. Quand on parle de la Chine aussi, je pense que c'est important de clarifier que ce coup d'État, c'était peut-être pas, à mon avis, influencé par la Chine, comme je partage aussi ce sentiment que pour la Chine, il n'y a aucun intérêt qu'il y ait la instabilité dans un pays juste à côté, voisin, et en plus, très important pour leur Silk Road and Belt and Road Initiative. Et donc, mais par contre, je pense que ce lancement de coup d'État est quand même inspiré par une figure qui est souvent oubliée, c'est Donald Trump, en fait. Le président Donald Trump était très violent, on peut dire, pour leur système politique aux États-Unis. Il faut rappeler que juste quelques semaines avant le coup d'État en Birmanie, il y avait des gens armés, les miliciens qui sont rentrés dans la capitale à Washington. Et quand on voit les images comme ça en Birmanie et en Chine, on voit que même l'États-Unis est incapable de contrôler leur force, leur division, et que en fait, pour les gens militantes qui voient ces images-là, ça les inspire dans une mauvaise façon en disant que attends, écoute, regarde, même vous, le plus grand pays, le protecteur de la démocratie, ne peuvent pas être unis pour la démocratie. Donc, en fait, ce que l'on fait, c'est pas totalement faux, c'est pas totalement contre. Et donc, pour la Chine aussi, ils voient que la démocratie, c'est toujours un concept américain.
Ouais, voilà. Alors, on peut rappeler tout de même que le coup d'État du 1er février dernier se passait sous la présidence de Joe Biden. Merci Alex Ankant. Je rappelle que vous êtes analyste birman indépendant basé à Paris. Merci aussi Sophie Boisseau-Durocher, chercheure associée au Centre Asie de l'IFRI, Françoise Nicolas, directeur du Centre Asie de l'IFRI et enseignante à Sciences Po, et David Camroux, chercheur et professeur professeur associé aux séries Sciences Po. Nous aurons d'autres occasions de parler de la Birmanie. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Cécile Lavolo et Nathalie Laporte. À samedi prochain.